This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffle ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jazz en histoire, ou quand le jazz retrouve quelques repères, une émission de Gérard Viols et Alain Vaquier. Cette année-là, le 7 octobre 1950, l'armée populaire de libération chinoise attaque l'armée tibétaine. Aujourd'hui, nous allons évoquer un événement qui est encore très actif aujourd'hui, bien qu'il ne touche ni les États-Unis, ni la France, ni l'Europe, enfin, en tout cas, pas directement. C'est l'invasion du Tibet, car c'est bien une invasion, et c'est la bataille de Chamdo, dans l'est du Tibet, qui est le déclenchement de cette invasion pour prendre le contrôle total du territoire tibétain. Contrôle qui n'est pas achevé, puisqu'encore aujourd'hui, la Chine populaire fait en sorte que peu à peu, le territoire tibétain est grignoté par l'esprit chinois. Un accord en 17 points sur la libération entre guillemets pacifique du Tibet sera signé en 1950 par les représentants du 14e Dalai Lama et le gouvernement chinois, qui ainsi affirmera la souveraineté de la Chine sur le Tibet. Cet accord sera dénoncé par la suite par le Dalai Lama lors de son départ pour l'exil en Inde en 1959. Alors si l'on revient un petit peu en arrière, voilà comment les choses se sont passées. En 1949, le Tibet a voulu adhérer à l'ONU, dans le but évidemment de se protéger et de protéger sa souveraineté. L'Inde voisine s'abstint pour ne pas agacer la Chine, qui était voisine évidemment du Tibet, mais aussi de l'Inde. Et les Occidentaux, Américains et Européens, eurent peur du vote soviétique. Toujours dans l'esprit de la guerre froide. C'est ainsi que l'Occident abandonna le Tibet, ce qui permit à Deng Xiaoping, le père spirituel de la Chine actuelle, en poste au Sichuan, de décréter la libération du Tibet. Petite parenthèse, Deng Xiaoping, c'est l'homme du chat. Qu'importe la couleur du chat, pourvu qu'il mange les souris. C'est l'inspirateur de la Chine d'aujourd'hui, qui était donc déjà en situation à cette époque. Alors l'armée populaire de libération chinoise pénétra donc au Tibet en encerclant l'armée tibétaine et le 19 octobre 1950, on put compter 5000 soldats tibétains tués. L'armée chinoise s'arrêta à 200 km de Lhasa pour ne pas trop heurter les moines et le gouvernement tibétain. Le 7 novembre, le gouvernement en appela à l'ONU en vain. Le seul pays qui soutint la demande tibétaine, ce fut le Salvador, petit pays d'Amérique latine, et qui proposa une résolution contre l'invasion. Mais en raison de la guerre de Corée que les Américains menaient, des hésitations de l'Inde, eh bien, le débat fut ajourné sine die, et jamais repris et oublié. Y compris cette guerre fut oubliée, puisque quand on cherche dans des archives, il n'y a pas d'archives sonores. Donc, en 1950, à part quelques écrivains, quelques journalistes, plus personne ne s'intéresse à ce qui arrive au Tibet. Donc, sans monnaie, et incorporé à la Chine, le Tibet devint une région avec un gouvernement autonome et avec une religion préservée. Mais ça n'a duré qu'un temps. La Chine n'aura ensuite de cesse que de coloniser le Tibet, et notamment, durant la dernière période, par le peuplement d'habitants immigrés chinois. favorisant ainsi une mixité qui, peu à peu, va dissoudre l'identité tibétaine, bien entendu. C'était une année d'invasion, puisque cette même année, cette année-là, l'armée soviétique envahit la Tchécoslovaquie. C'était le premier printemps de Prague qui était maté avant de recommencer la chose en 1968. Le 24 février en France, c'était la première retransmission télévisuelle en direct par la RTF. Et le spectacle, le texte qui était diffusé, c'était les Caprices de Marianne, les Jeux de l'amour et du hasard de Marivaux par la Comédie française. Et on ne comptait à cette époque que 3794 postes pour l'ensemble du territoire français. Le 27 avril était créé le Club Méditerranée, qui dure encore aujourd'hui, avec difficulté, mais qui dure. Et cette même année, cette année-là, eh bien, Juliette Gréco obtient le Grand Prix de la SACEM pour le jeûner les dimanches.
Tous les jours de la semaine, son bidet sonne le creux. Mais il y a pire que la semaine, il y a le dimanche prétentieux qui veut paraître rose et jouer l'air généreux. Le dimanche qui s'impose comme un jour bienheureux. Jeûner les dimanches, jeûner les dimanches. Dans la rue, il y a la foule des milliers de passants. Cette foule qui coule d'un air indifférent. Cette foule qui marche comme un enterrement. L'enterrement d'un dimanche qui est mort depuis longtemps. Je hais les dimanches, je hais les dimanches. Tu travailles toute la semaine et le dimanche aussi. C'est peut-être pour ça que je suis de parti pris. Chérie, si simplement tu étais près de moi, je serais prête à aimer tout ce que je n'aime pas. Les dimanches de printemps, tout flanqués de soleil, qui effacent en brillant les soucis de la veille. Les dimanches pleins de ciel bleu et de rires d'enfants, de promenades d'amoureux aux timides serrements. Et de fleurs aux branches, et de fleurs aux branches. Et parmi la cohue des gens qui, sans se presser, vont à travers les rues, nous irions nous glisser, tout de main dans la main, sans chercher à savoir ce qu'il y aura demain, n'ayant pour tout espoir que d'autres dimanches, que d'autres dimanches. Et tous les honnêtes gens, que l'on dit bien pensant, et ceux qui ne sont pas, mais qui veulent qu'on le croit, ceux qui vont à l'église parce que c'est la coutume, et qui changent de chemise et mettent un beau costume, ceux qui dorment 20 heures car rien les en empêche, ceux qui se lèvent de bonne heure pour aller à la pêche, ceux pour qui c'est le jour d'aller au cimetière, et ceux qui font l'amour parce qu'ils n'ont rien à faire, envire notre bonheur, tout comme j'envie le leur. D'avoir des dimanches, d'aimer les dimanches, de croire aux dimanches, quand je hais les dimanches.
Voilà donc Juliette Gréco, le Grand Prix de la SACEM pour Je hais les dimanches, dont les paroles étaient dues à Charles Aznavour. La même année, donc, au cinéma, après avoir tourné l'année précédente, eh bien, Marcel Carné sort Les Portes de la Nuit, sur un scénario de Jacques Prévert. On y retrouve Yves Montand, Jean Villard, qui joue d'ailleurs de l'harmonica dans le film. Et on y entend surtout la musique de Joseph Kosma, cette musique qui va être le thème le plus joué au monde à ce jour, derrière My Way, Les Feuilles Mortes.
Tiens, encore lui. Qui c'est ? La Gestapo.
Parle pas de malheur.
Vous connaissez cette air-là ?
Non.
Moi non plus. Et pourtant, pour les chansons, j'en connais un rayon.
Moi, je l'ai déjà entendu. Mais où et quand?
Extrait du film de Marcel Carné sur le scénario donc de Jacques Prévert. Alors si le jazz, dans ces années-là, vient des États-Unis massivement en Europe, eh bien l'Europe influence un tout petit peu certains des crooners américains, et le plus grand d'entre eux, c'est Louis Armstrong.
C'est si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. It's so good, nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling, c'est si bon. Oui, oui.
Assurément que c'est si bon. Vous aurez reconnu le thème cher à Louis Armstrong, donc enregistré le 26 juin 1950 avec un grand orchestre sous la direction de Cy Oliver. Alors, quelques mots quand même de Cy Oliver. C'était un... Lui-même jouait de la trompette et il chantait également. Il avait inventé un groupe qui était les Oliver Singers. Et donc, vers la fin de sa vie, deuxième partie de sa carrière, il s'est consacré aux arrangements. Et là, c'est un arrangement pur sucre de Cy Oliver, avec des effets de masse instrumentale qui s'opposent et qui donnent cette espèce de swing absolument impeccable, imparable, et avec une rythmique. Alors là aussi, quelques mots sur cette rythmique, parce qu'au piano, il y a Earl Hines, un musicien qui a joué au début avec Louis Armstrong, et qui là joue, faire évoluer son style, et là joue moderne. Il y a Everett Barksdale à la guitare, Georges Duvivier à la basse, immense bassiste pour grand orchestre, et Johnny Blowers à la batterie. C'est une rythmique, la Rolls-Royce de la rythmique pour un orchestre de cette nature. Voilà. Donc, si l'on a vu, notamment hier, qu'il y avait des grandes formations qui s'intéressaient au nouveau style, le West Coast, que des grandes formations accompagnaient aussi des musiciens plus anciens qui faisaient une sorte de synthèse de tous les mouvements qui avaient traversé le jazz, eh bien, le swing n'a pas dit son dernier mot. Et Count Basie, malgré qu'il ait dissous sa grande formation, remonte une petite formation, un octet, avec lequel il se relance et ça donne un résultat tout à fait intéressant. Little White Lies, Le Petit Blanc Ment. Une composition de Walter Donaldson, jouée par Clark Terry à la trompette, Buddy DeFranco à la clarinette, Wardell Gray, qu'on entendait là au saxophone ténor, une sorte d'équivalent de Lester Young, mais qui est un musicien qui n'a pas eu la même chance que Lester, mais qui avait une très très belle sonorité. Buddy Rutherford au saxophone baryton, Count Basie au piano, bien sûr, l'inénarrable Freddie Green à la guitare, qui n'a jamais quitté Count Basie, et qui ponctue le morceau de ces accords absolument lumineux à la guitare, Jimmy Lewis à la basse et Gus Johnson à la batterie, enregistré le 3 novembre 1950. L'intérêt, c'est aussi qu'on entend le jeu extrêmement économique de Count Basie que dans les grandes formations en général, on n'entend pas. Et ce n'est pas le moindre intérêt de cet enregistrement. Alors, il est un autre musicien, un autre saxophone, dont le son arrive à sa maturité. Et il va à partir de là faire une carrière absolument fulgurante. Cette année-là, en 1950, il s'agit de Stan Getz. Hershey Bar, une composition de Johnny Mandel, enregistrée le 17 mai 1950 par Stan Getz, au saxophone ténor bien sûr, Oleg au piano, Tommy Potter à la basse et Roy Haynes, merveilleux batteur, pour clôturer ce trio qui accompagne Stan Getz, Mr. Sound, comme on l'appelait parmi les musiciens, Monsieur Son, c'est-à-dire cette espèce de suavité qu'il arrive à incarner, et en jouant notamment sur la partie plutôt haute de l'instrument, alors que le musicien précédent jouait sur plutôt la partie Walden Gray, jouait plutôt sur la partie basse, sur le côté un peu rugueux du saxophone ténor. À partir de ce moment-là, Stan Getz va débuter. Sa carrière a déjà débuté, mais là, il va prendre un tournant définitif. Et rappelons que l'année qui suit, il va se séparer de Oleg et il va engager un pianiste qui va, lui, se faire un nom aussi. Il s'agissait de Horace Silver. Un autre saxophoniste va faire parler de lui, mais il sera, le pauvre, maltraité par la vie. Il s'agit de Gene Ammons. Gene Ammons, c'est le fils du fameux interprète de Boogie Woogie, Albert Ammons. Il n'occupe pas dans le monde du jazz la place qui devrait en fait lui revenir, eu égard à son talent, et ceci malgré une discographie assez importante. Il a beaucoup enregistré, il a enregistré une cinquantaine de micro-sillons, sans parler de 78 tours, et pour Emarcy ou Chess à la fin des années 40. Mais sa carrière a été interrompue à plusieurs reprises par des séjours en prison. Et oui, la consommation de stupéfiants n'étant pas tout à fait légale, eh bien, comme beaucoup d'autres, il a fait de nombreux séjours en prison, et ce qui a quand même beaucoup haché et interrompu sa carrière. Célébré pour ses joutes à deux saxophones, notamment avec Sonny Stitt, Gene Mons, donc, s'est affirmé comme maître de la ballade. Et là, je vous propose d'écouter une version de Prelude to a Kiss de Duke Ellington, qui est parmi l'une des plus réussies. Prelude to a Kiss, une ballade fondante de Duke Ellington, jouée par le Gene Mons Sextet, avec Bill Massey à la trompette, Matthew Guy au trombone, Amons lui-même au saxophone ténor, Sonny Stitt au saxophone baryton, Charles Batmans au piano, Gene Wright à la basse et Wesley Landers à la batterie. C'était à Chicago le 8 janvier 1950. Eh bien, voici que s'achève ce quatrième épisode de Jazz on l'histoire. Sachez quand même pour finir, et pour la petite histoire, qu'en 1950, eh bien, Keith Jarrett a 5 ans et il se produit dans l'émission de télévision le Paul Whiteman Teen Club.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il n'y aura pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense j'ai ouvert en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.